Alors, chers enfants, voilà particulièrement vous qui préparez le baptême ou la première communion, on est toujours en fait dans la logique de la fête de l'Épiphanie, qu'on a fêtée surtout dimanche dernier, avec l'histoire des mages que vous connaissez. Voilà les mages qui viennent d'Orient et qui viennent reconnaître Dieu qui est là présent dans ce petit enfant. Cette Épiphanie, c'est une manifestation, un dévoilement, vous voyez, de qui est Jésus finalement. C'est pas très évident de voir en Jésus petit enfant dans la crèche que là il y a tout Dieu qui est là présent. Et en fait du coup il y a trois mystères, trois étapes de la vie de Jésus qui nous permettent de saisir un peu cela. Le premier c'est du coup les mages. Les mages ils nous disent en Jésus c'est Dieu qui vient pour tous les hommes. Et donc du coup c'est Dieu qui est vraiment là pour pouvoir rejoindre chaque personne. Ensuite dans le baptême de Jésus on nous dit c'est Dieu qui vient se révéler de l'intérieur, et c'est ce que je vais développer avec vous un petit peu après. Voilà, Dieu, il se montre comme étant celui qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis après, il y a l'autre mystère, c'est le troisième, celui qu'on fêtera dimanche prochain. On écoutera cet évangile à la messe dimanche prochain. C'est Cana, avec les noces de Cana, quand Jésus transforme l'eau en vin, c'est Jésus qui dit, on nous dit « Dieu manifesta sa gloire à ses disciples ». À ce moment-là, en fait, Jésus, il commence à transformer les gens qui le suivent en vraiment des disciples, des gens qui se laissent saisir par la grandeur de qui est Jésus. Voilà, donc on a besoin de ces trois mystères, de ces trois étapes, ces trois dimanches qui nous sont proposés au mois de janvier pour pouvoir suivre Jésus vraiment. Et donc aujourd'hui, on en est au baptême de Jésus. Alors l'histoire du baptême de Jésus, c'est un petit peu comme un camarade à l'école qui vous dit, qui vous parle un petit peu de sa vie de famille. Il vous dit un petit peu comment ça se passe. Il vous décrit comment c'est sa chambre, quels sont ses jeux. Il vous parle aussi de comment est-ce qu'il est avec ses frères et ses sœurs, comment ça va bien, comment des fois c'est plus compliqué. Voilà un petit peu tout ça. Il vous dit un petit peu ses façons d'être, la vie quotidienne. Mais il vous le dit ça à l'école, donc de l'extérieur. Et puis vous, après, par votre imagination, vous faites tout le travail qui permet de se dire, qu'est-ce que ça veut me dire pour moi et tout ça, quoi. Voilà, donc il y a besoin d'un travail en plus après à faire de vous, mais de l'extérieur. Vous restez un peu extérieur à cette réalité-là. Et puis un jour, il vous invite à passer 3 jours en vacances chez lui. Et donc là, vous connaissez du coup les choses de l'intérieur. Vous voyez sa chambre telle qu'elle est vraiment. Et donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait ce que vous aviez imaginé, mais qu'il y a quelque chose, voilà. Et puis les relations entre lui avec ses parents, avec ses frères et sœurs, vous les expérimentez aussi. Et vous voyez comment est-ce que cela se passe et comment est-ce que cela est vécu. Et puis dans votre cœur aussi, vous êtes touché. Et en fait, l'histoire du baptême de Jésus, c'est un peu ça. Pendant très longtemps, Dieu a parlé par des hommes, il a décrit qui il était, mais pour le peuple juif, qui était le peuple qui recevait cette parole de Dieu par les prophètes, c'était resté un petit peu comme de l'extérieur, finalement. Il y avait une part de Dieu qui n'était pas vraiment saisissable. Et là, dans le baptême de Jésus, on entre dans les relations de Dieu. C'est-à-dire qu'on découvre en Dieu qu'il y a Dieu le Père qui dit à son Fils, tu es mon Fils bien-aimé. Il y a l'Esprit Saint qui descend et qui vient faire ce lien de communion avec cette colombe qui a des ailes et qui peut saisir sous ses ailes du coup toute la bonté de Dieu et nous emmener aussi. Et du coup, en fait, les gens qui étaient là près de Jésus à ce moment-là, ils ont pu expérimenter en fait les relations qu'il y a en Dieu. Ils ont découvert cet amour qui travaille sans arrêt le cœur de Dieu, en Dieu lui-même, et puis après pour les hommes, ils en ont fait l'expérience pour eux. Et vous voyez, c'est ça en fait qui change fondamentalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas du coup des idées sur Dieu, mais on est invité du coup aussi à pouvoir pénétrer le cœur de Dieu. Parce que la réalité maintenant pour nous aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on vit la réalité du peuple juif ou est-ce qu'on vit la réalité du temps de Jésus? Et alors certes, il y a quelqu'un qui vous parle au nom de Jésus, ça s'appelle le prêtre, les catéchistes, mais en fait, plus profondément que ça, depuis votre baptême, c'est Dieu qui parle dans votre cœur. Et du coup, il faut s'approprier, on peut s'approprier, et c'est tout le travail de la grâce de Dieu, de ce que Dieu veut faire dans votre cœur, les enfants. Voilà cette phrase. Quand Dieu dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie, il veut le dire aussi à chacun d'entre vous, les enfants. Et donc dans le temps de silence qui suivra cette homélie, et puis après dans tous les temps de silence, qu'on aura tout au long de la messe, et puis notamment aussi quand on verra Jésus dans l'hostie, on pourra dire, Jésus, tu es le Fils bien-aimé de Dieu, et je suis aussi, moi, le Fils bien-aimé de Dieu, la fille bien-aimée de Dieu. En moi, Dieu trouve sa joie aussi. Voilà, vous entendrez, faites résonner cette phrase un petit peu en vous, les enfants. Et dites-vous, pour vous aussi, personnellement, aujourd'hui, dans votre cœur, Dieu veut vous la dire. Tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. » Voilà, c'est important les enfants de cœur aussi, de pouvoir voilà, se personnaliser ça. Voilà, vraiment se découvrir que voilà, cette réalité de Dieu, eh bien, c'est cela que Dieu veut faire. C'est pour ça que dans la prière d'ouverture, on a dit qu'on était devenu enfant adoptif de Dieu. Et c'est cette grande réalité du baptême, de nous transformer. On n'est plus simplement des hommes comme ça, quoi, mais on est des hommes qui devenons enfants adoptifs de Dieu, et donc du coup qui entrons dans la famille de Dieu, dans le cœur de Dieu, et c'est ça qui nous rend fondamentalement heureux. Voilà. Pour les plus grands, je voulais repartir surtout de cette phrase d'Isaïe. Tout ravin sera comblé et toute montagne sera abaissée. Parce que, en fait, je me suis dit que nous qui vivons dans une zone de montagne, nous pouvons savoir finalement ce que ça veut dire que de se retrouver quand on veut pérégriner plusieurs jours de suite, d'un coup devant un ravin, et puis on se dit, ah, zut, comment je vais faire pour passer? Et ça peut nous démoraliser un certain temps parfois, parce qu'on se trouve bloqué, on regarde le tour qu'il faut faire, ça rajoute deux jours de marche, et on se dit, bah zut, alors comment je vais faire et tout ça, quoi. Pareil pour les montagnes. Quand on a une grande chaîne de montagnes à passer, bah voilà, on sait qu'on va pas la contourner, mais il va falloir passer par-dessus, trouver le col qui va bien, qui ne sera pas trop fastidieux et tout cela. Et voilà, donc du coup, voilà, on sait ce que c'est que ça peut vouloir dire comme effort aussi, comme lassitude. Et puis quand on a commencé à faire ce parcours-là, parfois comme fatigue, on n'en peut plus, et puis du coup on peut être démoralisé, et puis on n'arrive plus à avancer et tout ça, quoi. Donc finalement, cette phrase d'Isaïe, on peut la comprendre, nous. La question qu'on peut se demander, eh bien, c'est comment est-ce que cette promesse, on peut la voir. Alors, on n'a pas trop envie non plus que nos montagnes alpines deviennent la plaine de la Beauce. Donc, c'est bon, cette réalité-là, on ne va pas trop y toucher. Mais de se dire que dans notre propre vie, eh ben, cela aussi, Dieu peut le faire, finalement. Que nos montagnes aussi, elles puissent s'écraser et que nos ravins, ils puissent être remplis. Voilà. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vont être ces montagnes et ces ravins? Alors, je vous en propose une interprétation qui est assez libre et que vous pourrez vous adapter à vous personnellement plutôt si vous avez d'autres idées. Mais je vous propose de voir ces ravins d'abord comme toutes nos peurs finalement, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous bloque. Voilà, quand des fois dans notre vie, il y a des lieux où finalement, tac, régulièrement on fait l'expérience, quand on arrive à telle ou telle situation, à telle ou telle fatigue en nous, telle ou telle chose qu'on rencontre en nous, dans notre cœur, en nous-mêmes et à l'extérieur, et ben voilà, on s'en bloque. Et du coup, on se dit, bah, comment je vais faire, quoi. Et on n'arrive plus à aller au-delà de cette réalité-là, et on n'arrive plus, donc, du coup, aller jusqu'à vers Dieu, qui se trouve de l'autre côté, ou vers notre prochain, qui se trouve de l'autre côté. Voilà, on est vraiment bloqué, et on se dit, bah voilà, là, on ne sait pas comment faire, quoi. Les montagnes, ça pourrait être plutôt comme tous ces absolus que nous mettons dans notre vie. Un petit peu toutes ces choses qui finalement qu'on construit petit à petit, qu'on élabore, et puis qui deviennent en fait des choses qui nous bouchent l'horizon et qui nous empêchent de voir vers où on peut avancer. Et finalement, en fait, ça nous aveugle. Ces montagnes, c'est souvent construit par nos mains, un petit peu comme la tour de Babel, au premier temps dans la Genèse, là on nous raconte, les hommes ont voulu construire une tour qui montait jusqu'aux cieux, mais qui empêchait en fait les hommes d'aller vivre l'aventure, de découvrir voilà, toute l'étendue de la terre, de se répandre partout sur la terre. Et dans le récit de Babel, si Dieu après crée les langues différentes, voilà, brouille la capacité d'entrer en communication des hommes, c'est aussi voilà, pour qu'ils puissent voilà, se répandre sur la terre, construire quelque chose de nouveau, et puis voilà, découvrir que Dieu les attend en fait là-bas, et non pas dans cette espèce d'orgueil qui veut tout construire. Alors pour nous, ces montagnes, c'est toutes ces idoles du coup qui prennent la place de Dieu, tous ces tracas, tous ces désirs de toujours plus peut-être de notre société de consommation, ce désir de réussite sociale, tous ces absolus qu'on peut mettre dans notre vie qui pourraient être en fait relativisés, tout ce besoin de matériel qui nous fait oublier le spirituel, ou parce que le spirituel est bien plus silencieux. Voilà. C'est finalement peut-être tout ça, chacun d'entre nous, de personnaliser ça, de se dire, oui, en effet, qu'est-ce qui est ce ravin pour moi? Qu'est-ce que serait cette montagne pour moi qui m'empêche de pouvoir avancer, qui m'empêche de pouvoir aller au-delà? La question qu'on se pose ensuite, c'est comment est-ce que Jésus accomplit cette parole du prophète Isaïe? Comment est-ce qu'il fait pour combler ces ravins et briser ces montagnes? Et justement, dans le baptême de Jésus, dans ce baptême, nos propres baptêmes qu'on a rappelés, Dieu, Jésus, passe par l'eau pour le faire. le Jourdain, pour ceux qui sont allés en Israël, ils le savent. Au début, c'est un torrent de montagne qui, petit à petit, voilà, récupère, emmagasine un petit peu tous les différents torrents qui sont ses affluents. Et donc, ça devient voilà, un torrent assez large, un peu comme le Chéran dans les Bauges, peut-être, et qui arrive au lac de Tibériade et qui remplit cette mer intérieure dans laquelle Pierre, André, Jacques et Jean pêchaient notamment. Et puis après, ça continue sa route jusqu'à la mer Morte. Et le paradoxe de ces pays chauds, c'est que plus ça avance, là d'un coup, plus le ruisseau devient plus petit. Et donc voilà, cette espèce de rivière qui sort du lac de Tibériade, ça devient un ruisseau pas très large, pas tellement plus large que nos différents Nans qui sont au-dessus de chez nous là-haut. Et voilà, c'est facile à traverser finalement. Et donc du coup, voilà, Dieu choisit non pas le fleuve d'Amazonie pour pouvoir nous faire écraser ces montagnes et ces ravins, mais il choisit plutôt voilà, un ruisseau qui est tout calme à la fin, là où Jésus est baptisé près de Jéricho. Cela m'a fait penser du coup aussi à cet sentiment, cette attitude qu'avait saint François d'Assise devant l'eau dans le cantique de la création qu'il a écrit, ce fameux cantique qui commence par Laudato si. Quand il parle de l'eau, il dit qu'elle est chaste et belle. Et voilà, il parle de la chasteté de l'eau pour dire l'eau, voilà, elle fait son œuvre dans les plantes et tout cela, mais finalement elle n'est pas là pour rester par elle-même, elle est là pour voilà, donner vie et après, entre guillemets, s'effacer. Et finalement, voilà, la grâce en nous, c'est un petit peu comme cela aussi. Ça vient nous plonger, ça vient nous purifier, ça vient faire son œuvre en nous, mais ça ne vient pas, entre guillemets, nous écraser, ça ne vient pas nous détruire. Ça vient simplement voilà, nous permettre de donner vie en nous, en fait. Voilà. C'est un peu l'idée aussi quand on parle de la virginité de Marie, en fait. On découvre dans la façon dont Dieu a voulu faire avec Marie, qu'il a voulu respecter voilà, qui elle était, finalement. Son être, quoi. Son être intérieur, sa consécration peut-être aussi qu'elle avait faite. Et ainsi, du coup, voilà, Dieu est passé par là. Et comme ça, voilà, elle a pu porter du fruit, mais sans être, entre guillemets, blessée, entre guillemets, en elle-même. Et du coup, c'est intéressant de voir cela, de se dire, voilà, Dieu, quand il œuvre en nous, voilà, il nous respecte profondément, mais vraiment, il a cette puissance aussi de pouvoir combler les ravins, écraser les montagnes, et d'accueillir cette façon de faire de Dieu. Ainsi, du coup, aussi, on voit que bah, finalement, cette eau, on peut passer à côté, voilà, elle n'est pas là pour s'imposer. Mais quand on l'accueille aussi nous-mêmes, et bien finalement, tout est transformé un peu dans notre vie. Et vraiment, on peut se dire, voilà, cette eau, et bien oui, elle nous a permis de pouvoir voilà, combler le ravin qui était devant nous. Elle nous a permis peut-être bien de disperser aussi voilà, cette montagne qu'on avait pu construire, et ainsi de suite. Voilà, peut-être que c'est cela qu'on peut pouvoir accueillir aujourd'hui. Dieu vraiment veut faire cette œuvre en nous. Et chacun d'entre nous, dans ce temps de silence, il peut peut-être se dire, voilà, quel est le ravin que j'ai en moi? Quelle est la montagne que j'ai en moi, que j'ai construite? Et comment est-ce que ben, voilà, je vais pouvoir la présenter à Dieu pendant cette messe concrètement, pendant cette semaine aussi qui vient, et chaque fois, régulièrement, de dire, voilà, Seigneur, par ton eau qui m'a purifié dans le baptême, par ton eau qui est à l'œuvre aujourd'hui encore dans ma vie, eh ben, viens faire ton œuvre, viens totalement, en fait, voilà, enlever ce qu'il faut enlever, viens totalement combler ce qu'il faut combler. Ainsi, du coup, je dépasserai mes peurs, je pourrai oser aller jusqu'à toi, aller jusqu'à tous mes frères et sœurs, les hommes. Amen.